Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر Allahi qarib. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 21 novembre 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Kurdistan irakien, nouvelle frappe du CGRI contre les positions des terroristes anti-iraniens. Au moins 24 morts dans des raids de l'armée turque en Syrie. Et en RDC, les rebelles du M23 ne déposent pas les armes malgré les appels au cessez-le-feu. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, ont fait état ce lundi 21 novembre du début de la nouvelle série d'attaques aux missiles et de drones contre les positions des terroristes dans le nord de l'Irak. Dans le prolongement du processus de destruction des sièges et positions des groupes terroristes séparatistes anti-iraniens dans le Kurdistan irakien, la base Hamzeh Saïd Shohada des forces terrestres du CGRI a lancé ce lundi, dans la matinée, une nouvelle série d'attaques, homicides et de drones contre le reste des positions des mercenaires à la solde de l'arrogance mondiale, a annoncé le CGRI dans un communiqué. De nouvelles attaques combinées à l'aide de missiles et de drones kamikazes ont été menées contre plusieurs positions de groupes séparatistes et terroristes anti-iraniens dans le nord de l'Irak. Les frappes ont visé les positions du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, PDKI, et du Parti Komala dans la région du nord du Kurdistan irakien, rapporte la chaîne d'information iranienne en langue arabe Al-Alam. 4 missiles ont été tirés sur une position du PDKI dans la ville de Köy Sanjar, dans la province d'Erbil, tandis qu'une attaque de drones kamikazes a été menée contre un autre site du groupe près du village de Baharka. Entre-temps, des drones kamikazes ont frappé deux positions associées à Komala, près de la ville de Sulaymaniyah, dans la région. Sabari News, une chaîne d'information Telegram affiliée aux forces antiterroristes irakiennes, a annoncé que les attaques avaient déclenché les sirènes d'alerte au consulat des États-Unis à Erbil. Les bases militaires américaines sont également en état d'alerte. Selon des sources locales kurdes, environ 26 terroristes ont été éliminés. Le commandant de la division aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, affirme que l'Iran possédait une puissance de drones de niveau mondial, était désormais un pionnier de la technologie de missiles balistiques. Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh a fait ses remarques lors d'une cérémonie tenue dimanche 20 novembre, affirmant que l'Iran était à égalité avec les puissances mondiales en termes de technologie de drones et que ses réalisations dans ce domaine avaient défié les puissantes armées du monde. Il existe de nombreux autres acquis militaires qui seront dévoilés au temps opportun, comme la capacité de toucher des cibles ennemies à une distance de 1500 km, a déclaré le général Hajizadeh. Il a ajouté qu'en termes de technologie de missiles, l'Iran se situe au-dessus du niveau mondial, ajoutant « La nouvelle du dévoilement du missile hypersonique, avancé, capable de manœuvrer en dehors de l'atmosphère, n'a pourtant pas été un acquis nouveau, mais le CGRI a décidé de l'annoncer récemment. » Il a ajouté que le missile hypersonique iranien représentait une poussée de croissance générationnelle et que les ennemis ne seraient pas en mesure de le contrer pendant des décennies. Dans le domaine spatial, nous avons récemment pu lancer le porte-satellite Raem-100 à combustible solide, a déclaré le commandant iranien en ajoutant « Nous mettrons le premier satellite en orbite avant mars 2023 en utilisant le porte-satellite Raem-100 ». Plus tôt ce mois-ci, la force aérospatiale du CGRI a lancé avec succès le lanceur à trois étages Raem-100 à propulsion solide. Le Raem-100, premier du genre fabriqué par les scientifiques iraniens, est capable de mettre sur orbite des satellites pesant jusqu'à 80 kg à une distance de 500 km de la surface de la Terre. Au cours des dernières années, l'Iran a réussi à fabriquer et à mettre dans l'espace différents satellites et à lancer divers lanceurs. Fin juin, l'Iran a testé pour la deuxième fois sa fusée porteuse de satellites à propulsion hybride et développée dans le pays, appelée Zuljanah, à des fins de recherche prédéterminées. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué dimanche 20 novembre, pour la quatrième fois en deux mois, l'ambassadeur britannique à Téhéran, Simon Sharkliff, pour protester contre une récente attaque d'un groupe violent contre l'ambassade d'Iran à Londres. Le directeur général du protocole du ministère des Affaires étrangères a rappelé à l'ambassadeur britannique les obligations du gouvernement britannique conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Le diplomate iranien a ensuite transmis à l'envoyé britannique la protestation véhémente de Téhéran contre l'inefficacité et l'incapacité de la police britannique à empêcher l'attaque contre son ambassade. L'incident est survenu après qu'un groupe violent a attaqué le bâtiment de l'ambassade d'Iran à Londres et a insulté le drapeau de la République islamique d'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué en octobre le diplomate britannique pour protester avec véhémence contre l'ingérence britannique dans les affaires intérieures du pays et les nouvelles sanctions de Londres contre la République islamique d'Iran. L'armée turque a mené de nouvelles frappes aériennes contre le nord-est de la Syrie, tuant un certain nombre de militaires et de civils syriens. Selon le centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, les frappes aériennes de la Turquie contre la ville d'Alep en Syrie ont fait des victimes parmi les civils. Les frappes aériennes menées par des avions de combat turcs F-16 dans le gouvernorat d'Alep en Syrie ont fait des victimes parmi les civils, a déclaré dimanche Oleg Yegorov, chef adjoint du centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Les frappes de ce dimanche ont visé des zones résidentielles syriennes d'Afrin et de Kobani. La chaîne de télévision Rodab, basée à Erbil, a rapporté qu'au moins 15 soldats syriens avaient été tués dans les frappes turques contre les zones kurdes des gouvernorats d'Alep, de Raqqa et de Hasaka. Au moins 9 civils ont trouvé la mort, selon des sources syriennes sur le terrain. La Turquie affirme que les raids aériens visaient des éléments kurdes soutenus par les États-Unis, connus sous le nom d'Unité de protection du peuple YPG et le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, qu'Ankara accuse d'entretenir des liens avec les YPG. Le gouvernement turc accuse le PKK d'un attentat à la bombe survenu le 13 novembre dans une artère commerçante d'Istanbul, qui a fait 6 morts et plus de 81 blessés. Ni les YPG, ni le PKK n'ont revendiqué cette opération terroriste. Les forces armées ukrainiennes ont procédé dimanche 20 novembre à de nouveaux bombardements contre la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. 15 balles ont été tirées près d'une installation de stockage de déchets radioactifs et d'un bâtiment où se trouve du combustible nucléaire. Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhia, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon ce document, les forces ukrainiennes auraient tiré plus d'une vingtaine d'obus de grand calibre sur la centrale. Ceux-ci auraient explosé entre les blocs énergétiques numéro 4 et 5 et visé le toit d'un bâtiment spécial situé à proximité de ces blocs. Suite aux puissantes explosions près de la centrale nucléaire, l'organisme de surveillance de l'énergie nucléaire de l'ONU a déclaré que les forces derrière le bombardement de la centrale nucléaire jouaient avec le feu. L'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA, qui a des experts basés à Zaporizhia, a rapporté dimanche 20 novembre que de puissantes explosions avaient secoué la région samedi soir et dimanche. Il a déclaré que ces experts sur place avaient vu certaines des explosions depuis leur fenêtre. Il a signalé plus d'une douzaine d'explosions avec des dommages à certains bâtiments, systèmes et équipements, mais aucun jusqu'à présent ne critique pour la sûreté nucléaire. Les offices religieux ont été écourtés dimanche 20 novembre dans des villages du nord-est de la République démocratique du Congo, RDC, par l'irruption des rebelles du M23 qui restent à l'offensif en dépit des appels à déposer les armes. Les lignes de front étaient restées calmes samedi, laissant croire que les appels à cesser le feu pouvaient avoir été entendus, mais la calmie n'a duré qu'une journée. Nous étions à l'église pour le culte et le M23 a surgi en tirant beaucoup de coups de feu, a déclaré à l'AFP par téléphone un pasteur de Katvigourou, agglomération du territoire de Rutshuru, situé sur le front nord-est des combats entre l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars. Selon un responsable de la société civile locale, Jean Bosco Bahati, les rebelles se sont emparés de plusieurs villages de la région, à quelques 35 km d'Ishasha, la localité frontalière de l'Ouganda, située non loin du lac Edouard. La population est en débandade, a-t-il témoigné. Selon un autre habitant, l'armée s'est repliée vers le nord. Plus au sud, les combats ont aussi repris dimanche matin, à une vingtaine de kilomètres au nord de la grande ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, au niveau de Kibumba, qui marque depuis plusieurs jours la ligne de front sud. Depuis ce matin, les combats font rage dans la région, a indiqué un habitant. Trois officiers, dont un colonel, viennent d'être blessés dans les combats, a précisé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 20 novembre 2012, le M23 s'était emparé de la ville de Goma, qu'il avait occupée pendant une dizaine de jours, avant de se retirer et d'être vaincu l'année suivante. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Europe, coupure d'électricité, nouveaux défis à surmonter. La flambée des prix de l'énergie associée à une inflation galopante a mis les moyens de subsistance des Européens sous de lourdes contraintes après que les Européens ont rompu leur lien énergétique avec la Russie, le principal fournisseur de gaz naturel de l'Europe, à la suite de la guerre en Ukraine, déclenchant une grave crise économique sur le continent. Nous devons nous attendre à des pannes d'électricité en hiver et j'entends par là qu'une interruption régionale et temporaire de l'alimentation électrique, a déclaré Ralf Tisler, responsable allemand, ajoutant que les coupures de courant étaient dues à la fois à des pénuries d'énergie et à des arrêts temporaires de l'ensemble du réseau. Le responsable a en outre poursuivi qu'il faisait référence à des pannes de courant à court terme, appelées baisses de tension plutôt qu'à des pannes à grande échelle. Tisler a averti que la situation pourrait potentiellement atteindre un point critique, exhortant les Allemands à faire le plein de nourriture, d'eau et d'autres produits essentiels. Les deux dernières années ont été très difficiles pour les Allemands, a déclaré Tisler, ajoutant que la pandémie de COVID-19 était un excellent exemple des effets imprévus d'une crise. Les années à venir doivent être encore plus difficiles à la lumière de la détérioration de la situation climatique et d'autres tensions géopolitiques graves, a souligné Ralf Tisler. Il a également déclaré que la partie la plus triste de la nouvelle était que les hauts responsables de l'Union européenne démentent les difficultés auxquelles les Européens feront face cet hiver. Par ailleurs, un important opérateur de réseau allemand a déclaré aux médias début octobre que le pays pourrait être contraint cette année de réduire ses exportations d'électricité vers d'autres pays afin de survivre en hiver. Heinrich Neumann, directeur technique de l'opérateur de réseau électrique allemand Amprion, a souligné mardi 4 octobre au Financial Times la possibilité de couper les exportations d'électricité vers d'autres pays pour éviter les pénuries locales. Neumann a déclaré lors d'une interview que suspendre temporairement les exportations d'électricité pendant des heures plutôt que des jours pourrait être un dernier recours pour sauver la crise énergétique des pays assiégés qui est dans l'œil du cyclone depuis que l'approvisionnement en gaz de la Russie a été coupé. La France et l'Autriche sont les plus grands importateurs de l'électricité excédentaire de l'Allemagne, dont les crises énergétiques pourraient s'aggraver en cas d'arrêt des exportations allemandes.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui est un jour noir pour l'Iran car mercredi 16 novembre, des attentats ont eu lieu dans plusieurs villes en Iran, notamment à Isfahan et à Izeh dans le Kurdistan iranien. Aujourd'hui donc c'est le sujet de notre débat. Des avertissements ont été faits par le gouvernement iranien dû au fait aux manifestations expliquant que le danger du terrorisme était là. Malheureusement, le 16 novembre, plusieurs familles en ont pâti, plusieurs personnes sont mortes, dont des enfants, dont des femmes et des enfants des civils. C'est le sujet de débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord de regarder notre reportage et par la suite nous ferons venir nos invités. Tout de suite, notre reportage.
Le juin, le gouverneur d'Isfahan annonçait la mort en martyr des deux combattants de Basij dans le quartier de Khaneh, dans le chef-lieu de la province, mercredi soir 16 novembre. Mohammad Jan Nesari, l'adjoint au gouverneur d'Isfahan chargé des affaires politiques, sécuritaires et sociales, annonçait la mort en martyr des deux combattants du Basij et les forces volontaires dans le quartier de Khaneh, au nord-ouest d'Isfahan. Lors des émeutes déclenchées dans certaines régions de la province d'Isfahan, mercredi, deux combattants Basiji ont trouvé la mort et deux autres ont été blessés. Des affrontements ont éclaté dans la ville de Semiram où trois personnes ont été tuées, a-t-il expliqué. Malheureusement, lors des émeutes dans le quartier de Khaneh, un motard a tiré sur la force de sécurité et deux des combattants volontaires Basiji ont été tués. Deux autres personnes ont été blessées, dont l'une se trouve dans un état critique. Une enquête est en cours et pour l'heure, la sécurité est rétablie dans la province d'Isfahan, a-t-il ajouté. Toujours dans la soirée de mercredi, des assaillants inconnus ont également tiré avec des fusils d'assaut de type Kalachnikov sur la foule et la police dans la ville d'Izeh dans la province de Khuzestan. Pour l'instant, on déplore 7 morts et 5 blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Le juge en chef de Khuzestan a déclaré « Trois principaux fauteurs de troubles et émeutiers d'Izeh ont été arrêtés et les opérations pour identifier et arrêter d'autres éléments sont en cours. » Aussitôt dans la soirée, le président Ebrahim Raisi a exprimé ses condoléances aux familles des martyrs de l'attentat terroriste d'Izeh et a ordonné au gouverneur du Khuzestan, Sadr Khalilian, de suivre les actions des services de renseignement et des forces de l'ordre en vue d'identifier et d'arrêter les auteurs de l'attentat terroriste. Quoi qu'il en soit, les événements de mercredi à Izeh et Isfahan montrent que les séparatistes hostiles à l'ordre de la République islamique d'Iran sont entrés dans la phase d'actions armées après l'échec du projet de grève et d'émeute. De telles actions s'effectuent dans le but de provoquer une guerre civile dans le pays. Ces dernières semaines, de grandes quantités d'armes ont été découvertes dans les différentes régions du pays. Elles ont été introduites dans le pays clandestinement. Auparavant, John Bolton, enseignant conseillers de Donald Trump et des responsables occidentaux proches des courants antirévolutionnaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays avaient reconnu que l'Occident fournissait des armes aux émeutiers en Iran.
Nous revoilà sur les plateaux. Donc aujourd'hui, le sujet du terrorisme du 16 novembre dans plusieurs villes en Iran, notamment Izeh dans le Kurdistan iranien et à Isfahan. Monsieur André Chami, notre invité. Bonjour Monsieur André Chami, ravi de vous avoir sur nos plateaux aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous, merci à votre invitation, pour votre invitation.
Notre deuxième invité, Monsieur Amrouni, expert politique. Monsieur Amrouni, bonjour, ravi de vous recevoir sur nos plateaux.
Bonjour à vous et à votre invité de l'Alsace.
Alors, un sujet aujourd'hui qui est vraiment lugubre parce que avait été prédit par le gouvernement iranien en expliquant que les différentes situations de protection de l'État était mise en danger. Il y a eu des déclarations des terroristes, il y a eu des déclarations même d'un ancien conseiller de la Maison-Blanche, je parle de M. Bolton. Tout ça a donné le résultat de ce mercredi. Maître André Chami, quelques mots pour parler de la situation. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été déclaré par Bolton et les médias? Les pensez-vous responsables de ce qui s'est passé ce 16 novembre?
Vous savez, il n'y a rien de nouveau, si j'ose dire, en la matière, parce que les positions de Bolton sont toujours là. La volonté des États-Unis de déstabiliser la République islamique d'Iran a toujours existé. Bien pire encore, la volonté de détruire la structure de l'État a toujours été, je dirais, propagée et entretenue par l'administration américaine, qu'elle soit républicaine ou démocrate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de traitement en fonction du changement de la majorité aux États-Unis. Et là, je le dis parce qu'on est au lendemain des élections aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer que si demain il y a une autre majorité qui devait arriver, la politique va changer. La question qui est posée en réalité au monde entier, pas seulement à l'Iran, est-ce que il doit, je dirais, y avoir encore sur cette planète un seul État qui a les clés en main de déstabiliser tous les pays du monde à sa guise, sans se poser de questions par rapport aux dégâts collatéraux, la population massacrée, les femmes et les enfants qui sont déchiquetés, les villes qui sont détruites. Les États-Unis pratiquent directement ou indirectement ce type de politique depuis des décennies, j'ai envie de dire depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis la baisse d'intensité de la présence britannique dans la région. C'est la puissance américaine qui est montée avec toute sa splendeur en termes de massacres, en termes de crimes, en termes de déstabilisation politique et de coup d'État. Et ce, à travers le monde. C'est-à-dire, vous prenez l'Amérique latine, c'était le cas. Vous prenez l'Afrique, c'est le cas. Vous prenez même l'Algérie, dans les années 80, ça a toujours été le cas. Vous prenez même les alliés des États-Unis qui ont été, entre guillemets, passés par cette case-là, sont encore là. Et là, évidemment, le grand Satan pour les États-Unis, c'est l'Iran. Et le grand Satan pour l'Iran, c'est les États-Unis. Et là, maintenant, on peut dire que la guerre est plus qu'ouverte parce que l'Iran ne s'incline pas devant la volonté américaine, ne s'incline pas devant le diktat que cherchent à imposer les États-Unis dans cette région-là. Et évidemment, avec les réussites à tous les niveaux politiques, économiques, scientifiques, industriels, militaires du côté Iran, évidemment, il y a une réaction que j'appellerais naturelle, pour ne pas dire allergique, de la part des États-Unis pour, à ce moment-là, riposter. Et ces ripostes se font d'abord par une déstabilisation politique à travers les mouvements qu'on aurait pu comprendre dans d'autres circonstances. C'est-à-dire, si on savait que c'était des mouvements spontanés, que des gens ont envie de plus de liberté, plus de droits d'expression, etc., ou que sais-je, ça existe à travers le monde, j'ai envie de dire, et pourquoi pas en Iran. En revanche, quand on voit dans quel cadre ça se passe et dans quelle, je dirais, dans quelle lignée c'est dessiné, on comprend que on essaye d'exploiter des petites frustrations ici ou là pour en faire effet boule de neige et à ce moment-là, agrandir en quelque sorte les traits, pour ne pas dire aggraver le trait, pour transformer cela en une espèce de révolution de je ne sais quelle couleur, parce que les révolutions de couleur sont la spécialité des États-Unis et maintenant c'est connu et archi-connu, puisque maintenant c'est documenté, y compris par les Occidentaux eux-mêmes. Il n'y a pas de révolution à proprement parler. Il y a aujourd'hui des révolutions qu'on a appelées de couleur, qui étaient le printemps arabe, mais en même temps, dans les anciens pays soviétiques, c'était les révolutions multicolores. Et aujourd'hui, on essaie de trouver, en quelque sorte, une révolution multicolore. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a une volonté derrière, et c'est un terme qui a été utilisé, j'ai envie de dire, par les Américains et par les Occidentaux à bon escient, afin de syrianiser la situation en Iran. C'est-à-dire la volonté n'est pas simplement de créer des troubles ponctuels et instantanés. La volonté, c'est la dislocation pure et simple de l'État iranien et de la République islamique d'Iran. Et c'est en cela que les Iraniens devraient être conscients et oublier s'il devait y avoir des divergences entre les Iraniens pour des raisons que j'appellerais de détail. Aujourd'hui, c'est un front national qui doit s'opposer à cette espèce de tentative de déstabilisation de tout le pays. Et là, aujourd'hui, ce qui est pratiqué, c'est presque à l'identique de ce qui a été pratiqué dans d'autres pays, particulièrement en Syrie ou en Irak, c'est-à-dire on essaie de fomenter des moyens pour déstabiliser à travers les oppositions ethniques, les oppositions confessionnelles, les oppositions religieuses. Pourquoi pas demain, on essaiera d'opposer les chrétiens ou les juifs aux musulmans en Iran, on essaie d'opposer les sunnites aux chiites, mais en réalité, ils ne connaissent pas apparemment profondément le régime iranien, ils ne connaissent pas le fonctionnement de la République islamique d'Iran, mais la tentative est toujours là, pour ne pas dire la tentation est toujours là pour essayer de créer le trouble afin d'aboutir, selon eux, tôt ou tard, à la cassure de la République islamique d'Iran et transformer le régime dans un autre régime qui soit plus favorable, en tout cas plus attentif aux diktats américains. Et à ce moment-là, les Iraniens redeviendront comme à l'époque du Shah, c'est-à-dire en quelque sorte les subsidiaires des Américains dans la région.
Merci, Monsieur André Chami. Ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, tout ce que vous dites est très intéressant et tout à fait vrai, surtout c'est la vérité. Quelques heures avant les attaques du 16 novembre, il y avait eu un autre débat où nous avions reçu Mme Issar Midani qui avait expliqué qu'une des choses qui avait été réalisée avant l'attaque en Syrie, avant les attaques en Syrie, c'était la mise sous silence de la télévision syrienne au niveau international, je parle bien. Cette semaine avant ce 16 novembre, il y a eu des sanctions qui se sont faites sur les chaînes iraniennes, les chaînes nationales iraniennes, dont internationales avec Press TV. Monsieur Amrouni, qui est notre expert politique, ce sont plusieurs semaines d'événements politiques, d'événements géopolitiques qui sont arrivés avant ce 16 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces événements qui sont succédés ou il y a eu des interventions étrangères, je parle donc par exemple des propos de Daesh, des propos de John Bolton, qui sont venus dire que oui, nous sommes actifs en Iran, oui, nous souhaitons attaquer l'Iran. L'avertissement de nos ministres iraniens qui ont averti le danger qu'il y avait à l'heure actuelle en Iran face à ces interventions de terrorisme, parce que le 16 novembre n'est pas arrivé comme ça, ce sont différentes actualités qui se sont succédées. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, toutes nos condoléances pour les familles des martyrs, les actes terroristes ignobles des groupes terroristes à l'intérieur de l'Iran. Vous savez, l'ennemi n'a jamais caché ses objectifs. Donc, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et certains pays arabes, ils ont toujours œuvré pour déstabiliser le gouvernement iranien. Et on voit que on a passé au plan B. Le plan A, c'était le retour de l'Iran à l'accord nucléaire dans le cadre des conditions américaines et israéliennes et saoudiennes, pour dire les choses comme elles sont. L'Iran de M. Raisi, le gouvernement de M. Raisi, n'a pas accepté de donner, de s'agenouiller aux conditions américaines. Au contraire, l'équipe qui a négocié le retour de l'accord, elle était bien déterminée à avoir tous les droits que l'accord lui-même donne à la République islamique, c'est-à-dire la levée des embargos et le retour des milliards iraniens qui sont dans les banques européennes et les banques américaines et coréennes. Donc, le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est la déstabilisation par d'abord un blocage de communication, c'est-à-dire on bloque les canaux de communication iraniennes ou qui sont alliés à l'Iran. Donc, on va les bloquer au niveau international. On va faire une pression diplomatique à l'extérieur, toujours sur au niveau de la communication, et on va passer aux actes terroristes. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui est nouveau aujourd'hui. On a deux plans. On a le plan de Daesh, donc c'est des mercenaires au service des Américains, et on a le plan des groupes séparatistes kurdes ou autres. Donc, c'est un plan bien défini, c'est un plan financé par les Saoudiens, dirigé par les Américains et œuvré par des Iraniens à l'intérieur ou même des gens qui se sont infiltrés de la
plateforme. Pour l'instant, Monsieur Amrouni, dans ce qu'on sait, pour l'instant, il y a une suspicion que ça vient d'éléments étrangers qui sont venus sur les territoires, notamment Izeh, qui est du Kurdistan iranien, qui n'est donc pas très loin du Kurdistan irakien. Donc, bien entendu, les rapports de police ne sont pas encore arrivés, ils sont en attente, mais il y a une grande présomption que ce soit des étrangers qui auraient fait ces attentats.
Oui, mais quand même, il y a eu beaucoup d'assassinats des grands chefs militaires, des scientifiques iraniens. Donc, ce ne sont pas les premières opérations militaires d'actes terroristes. Aujourd'hui, on a dans un autre plan, c'est-à-dire c'est un plan de déstabilisation du gouvernement de M. Raisi. Les États-Unis le sait très très bien, elle ne peut jamais déstabiliser le secteur politique iranien. Pourquoi? Parce que le peuple iranien soutient le gouvernement islamique. Par contre, ils veulent gêner, ils veulent démoraliser, démobiliser le gouvernement de M. Raisi. C'est-à-dire que ce gouvernement-là, il gêne donc toutes les tentatives américaines de garder à distance l'Iran de la Chine et de la Russie. Pourquoi ils ont activé le plan B? Parce que la relation entre la Chine et l'Iran s'était développée au niveau stratégique, et surtout la relation entre l'Iran et la Russie. Et donc, on a tout fait, même, si j'ose dire, il y a 2-3 jours, avec les attaques ou avec ce qui s'est passé sur la frontière de l'Ukraine avec la Pologne, les médias dans le monde occidental, ils n'ont jamais cessé pendant 3 jours à dire que ce sont des drones iraniens qui ont frappé donc dans le territoire polonais. Et donc cette histoire donc des drones iraniens, depuis une quinzaine de jours, donc l'Europe et les États-Unis ne cessent de parler de l'activité militaire iranienne à côté des Russes sur le sol européen. Et donc c'est pour cette raison qu'on voit les Européens, surtout les Allemands, et les Français qui mettent la pression sur l'Iran. En fait, le point crucial de cette attaque, si vous voulez, terroriste à grande échelle, c'est le rapprochement iranien avec la Russie. Et les Européens et les Américains ne veulent pas de ce rapprochement. Et donc, ils ont déclaré la guerre. C'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas simplement des actes terroristes isolés. C'est une déclaration de guerre, c'est une pression à l'intérieur même de l'Iran, pour que l'Iran ne va pas trop loin dans ses relations avec la Fédération.
Merci, Monsieur Mandina Amrouni. Monsieur André Chami, êtes-vous d'accord avec le propos de notre invité? Êtes-vous d'accord par rapport aux relations internationales qui lient l'affaire du théorème du 16 novembre?
L'affaire est beaucoup plus grande, à mon avis, parce qu'il y a là la circonstance actuelle, mais il y a quelque chose qui est plus général, parce qu'en réalité, encore une fois, c'est un compte qui n'est toujours pas réglé entre les États-Unis et l'Iran depuis 1979. Et si on prend ces événements qui se sont produits dernièrement, on va dire oui, et il n'y a eu que ça, mais regardez voir ce qui s'est passé depuis 1979. Les attaques n'ont pas cessé, les échanges n'ont pas cessé, dans le sens que j'appellerais coup pour coup, et évidemment sur d'autres terrains, comme le terrain de la Syrie, l'Irak, parce qu'on essaie de se rapprocher du territoire iranien. Ce qui s'est passé en Irak avec l'attaque de Daesh, la déstabilisation du pays, en l'occurrence l'Irak, c'était quoi? C'était dans le cadre d'un plan d'ensemble pour parvenir à une invasion de l'Iran, ou en tout cas à la, je dirais, à la fracture de la République islamique d'Iran. C'était ça, c'était un plan qui visait 11 pays, rappelons-le. On n'était pas en train juste de parler d'un petit morceau de territoire ici ou là. On parle de régions qui devaient être soumises au diktat américain. Et les moyens se sont multipliés. On est passé de la guerre qui a été, ou des guerres qui ont été déclenchées par George Bush, à ce qu'on appelait le software qui a été animé et orchestré par Obama. Et là, on revient à ce que j'appellerais les rapports de force, et on monte la tension parce qu'on a compris que la manière douce, en tout cas la manière où on essaye de créer des petites secousses, n'est pas suffisante. Il fallait donc créer de grosses secousses, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les moyens ont été augmentés, et ils vont même plus loin, parce que le fait de se rapprocher davantage de la Russie, là on est monté d'un échelon dans les tensions. Et quand on se rapproche davantage de l'Iran, c'est-à-dire en s'en prenant directement au territoire iranien et non pas simplement autour de l'Iran, c'est-à-dire le Kurdistan, ça veut dire l'Irak, ça veut dire même l'Azerbaïdjan, toutes ces zones-là ont été plutôt des zones de déstabilisation qui visent in fine l'Iran, qui ne visait pas particulièrement l'Irak. L'Irak, c'est un marchepied pour plus gros. Même si l'Irak est important sur le plan économique, mais il n'en reste pas moins que sur le plan géostratégique, c'est l'Iran qui est in fine visé.
Vous parlez de géostratégie, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous dites. Vous parlez de géostratégie. Est-ce que ce n'est pas une stupidité géostratégique quand on est en conflit avec la Chine sur Taïwan, avec des conflits économiques à Taipei, quand on est en conflit avec la Corée du Nord, parce que dernièrement également les tensions ont monté d'un cran, quand on est en conflit avec le système ukrainien, parce que Kiev également, il y a des problèmes. Je veux dire, à l'heure actuelle, cette semaine, l'Union européenne a bien dit qu'on mettrait des limites à la suivi de la politique de Kiev. Et quand encore, on ne parle même pas encore du continent africain, où il y a d'autres enjeux, parce qu'il faut encore rappeler qu'à l'ONU, l'Afrique n'a pas suivi les recommandations des pays occidentaux pour, je crois que c'est 27 États africains, c'est quand même un certain nombre quand on connaît les conflits qui existent en Afrique, 27 États africains qui ont décidé de ne pas suivre la demande de projet de paiement de la Russie pour l'Ukraine. C'est quand même des dossiers extrêmement lourds. L'Iran, venir attaquer l'Iran alors que l'Iran n'attaque personne. Dernièrement, il cherche juste à rendre d'amitié avec la Syrie, avec l'Irak. On va dire quand même que c'est un générateur de stabilité en ce moment, l'Iran. Pourquoi rentrer en conflit avec? Pourquoi s'opposer à son média? Et surtout, le gouvernement iranien récemment a décidé, et je ne serais pas étonné que dans le futur, il souhaite directement s'attaquer aux médias qui se sont pris à eux, qui ont permis à ce que l'Iran soit moins safe, j'ai envie de dire, moins sécure. Et ils ont clairement dit qu'ils prenaient responsables les médias et tous les médias et réseaux sociaux qui ont permis à ce qu'on en arrive à des manifestations qui rendent l'insécurité totale en Iran, qui ont permis, parce que ce qui s'est passé à Isfahan ne serait pas arrivé il y a 2 mois, parce que le gouvernement iranien a toujours su protéger ses frontières. Daesh n'est pas arrivé hier, Daesh est arrivé depuis plus de 11 ans. Donc c'est là que vient la question. C'est pourquoi on arrivait là alors que l'Iran pourrait être juste un générateur de stabilité dans la région?
Alors, il y a deux choses. Alors, pour la petite histoire, les amis autour de moi, ils m'ont dit que je serais blacklisté sur la liste des États-Unis parce que j'interviens sur votre excellente chaîne, et par conséquent, et ne vous étonnez pas si un jour, moi, je serai sur la même liste des organisations terroristes ou des personnes recherchées. Mais j'ai envie de dire, moitié blague à part, pour parler du rôle des médias, mais également de ce qui se passe actuellement. Le rôle des médias, c'est un accompagnateur, si j'ose dire, des politiques. À partir du moment où vous supprimez le support, ou en tout cas vous déstabilisez ou vous bloquez le support, on croit aussi déstabiliser la politique de communication de ce pays-là. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose de fondamental. C'est que les États-Unis savent que le jour où il n'y aura plus de guerre dans le monde, le jour où il n'y aura plus de tension dans le monde, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui se trouveraient déstabilisés parce que c'est un pays qui est déjà en situation de scission. Il faut quand même le reconnaître. Il y a un excellent démographe français qui est Emmanuel Todd qui a annoncé il y a maintenant plus de 10-15 ans la chute de l'Empire en parlant des États-Unis. C'est-à-dire quand on regarde démographiquement, politiquement, ce que j'appellerais économiquement, les États-Unis finiront par disparaître. Ne croyez pas que je suis en train de raconter juste des vœux qui me concernent personnellement, mais non, quand on fait une analyse profonde de la situation des États-Unis, de la société américaine, c'est une société qui est en, j'ai envie de dire, en sursis de scission. Et cette question-là est toujours posée.
Merci, Monsieur Amrouni. Merci, Monsieur André Chami. Désolé, malheureusement, le débat doit prendre fin. Il y a beaucoup de choses à dire. La situation est également critique à cause du nombre de morts. Des enfants et des femmes, encore une fois, ont été victimes de ces actes terroristes. Malheureusement, le débat finit maintenant. Je vous propose de nous rejoindre pour un autre débat, une autre fois. Moi, je vous dis au revoir à partir des studios ici de Téhéran.
L'Iran et son 7e art. Le cinéma de la défense sacrée, deuxième partie. Le cinéma de la défense sacrée est d'abord un cinéma documentaire, enraciné dans les mémoires, les notes, les rapports, les autobiographies, les récits et l'histoire officielle iranienne. Ce cinéma met en scène l'opposition entre les deux pouvoirs iraniens et irakiens, traite de sujets comme le martyre, les blessures, la captivité, le dévouement, le renoncement, et enfin propose des réflexions sur les retombées affectives, socioculturelles et spirituelles de la guerre. Les scénarios, les pièces théâtrales et les séries télévisées constituent le noyau de la production artistique dramatique de guerre. Au début, ces auteurs se consacraient plutôt à la description de la résistance courageuse en insistant sur la cruauté de l'ennemi et les victoires sur le front. Néanmoins, au fur et à mesure, des thèmes plus généraux comme les problèmes affectifs et psychologiques, les différents points de vue de la génération de la guerre et de celle d'après-guerre, l'étude des comportements des combattants, les réactions de la population vis-à-vis de la guerre, les souffrances des combattants, des prisonniers et de leurs familles, bref, l'ensemble des réalités de la guerre se sont introduits dans cet art. Rasoul Mollaholipour est le fondateur du cinéma différent des premières années de guerre avec son film Neynava, 1983, et par la suite, en 1985, avec son deuxième film Petite barque vers la côte, qui raconte l'histoire de Khorramshahr, assiégé puis occupé au début de la guerre, et les efforts des défenseurs pour la libérer. Avec Vol de nuit, 1986, il fait preuve de réalisme en tentant de garder ses distances avec la vision irréelle et purement sentimentale des œuvres de l'époque. Mais le point de départ du cinéma romanesque de la défense sacrée est sans doute le film L'éclaireur, 1988, d'Ebrahim Khatami Kia, qui demeure l'un des films importants du genre, avec une perspective réaliste et une nouvelle forme d'iconographie. Son autre film, Mohajer, 1989, influença de la même manière les réalisateurs suivants. On peut considérer Hatami Kia comme le premier réalisateur du genre du cinéma de la défense sacrée à faire un cinéma réaliste en créant des personnages très humains et en dépassant le simple cadre de la guerre pour également mettre en situation la vie des combattants ou des vétérans avant ou après la guerre, leur vie privée ou leur place dans la société, etc. Il a ainsi une filmographie variée, avec toujours l'amour présent aux côtés de la guerre. Citons Du Carré au Rhin, 1992, qui met en scène un ancien combattant mourant, gazé pendant la guerre et qui va en Allemagne pour se soigner. La Tour de la Ronde, 1995, un film ésotérique sur l'élévation et le cheminement personnel des combattants dans des situations extrêmes et racontant la frontière entre l'amour et la guerre. L'odeur de la robe de Youssef, 1995. L'Agence de verre, 1998, un de ses meilleurs films, qui revient sur la réalité de la vie des anciens combattants dans une société qui les oublie, et Le Ruban Rouge, 1999, un film poétique et complexe dans lequel la guerre est présente et absente à la fois. Les films des années 90 reviennent généralement sur la situation des martyrs, des vétérans, des prisonniers de guerre et de leurs familles, et des conséquences de la guerre au niveau social. Il développe également, avec un regard a posteriori, les valeurs que soutenaient les Iraniens durant la guerre. C'est ainsi qu'apparaissent les œuvres d'autres réalisateurs comme Azizullah Hamidnejad, Ahmad Moradpour, Ahmad Reza Darwish, Kamal Tabrizi, Mohammad Ali Ohangar, Mazyar Miri ou Mohammad Hossein Latifi. Kamal Tabrizi, plus connu pour ses comédies de guerre, présente à la fin des années 80 un film à veine très mystique, Traversée, 1988. Hamidnejad réalise en 1991 un des chefs-d'œuvre du genre de la défense sacrée avec Hour en feu. Il récidive en 2004 avec L'alarme du froid. Moradpour devient, lui, le fondateur d'un sous-genre de ce cinéma, en privilégiant la mise en scène de l'ennemi dans sa complexité humaine, notamment dans son film Saint tapis de feu, réalisé en 1993. Ahmad Reza Darwish est également très connu du public avec des films inoubliables tels que Kimia, 1994, Le territoire du soleil, 1996, Natif du mois de mer, 1999, et Duel, 2003, avec leurs sujets particuliers et leurs personnages touchants. Latifi avec Le troisième jour, 2006, qui revient sur les derniers jours de la résistance dans la partie ouest de Khorramshahr, et Miri avec La récompense du silence, 2007, etc. sont des réalisateurs de la nouvelle génération s'illustrant et faisant évoluer le genre du cinéma de la défense sacrée, renforçant au passage le lien entre ce cinéma et les spectateurs. À cette liste, on peut également ajouter Comme un conte, 2006, de Khosrow Sinaï, Enfant de la terre, 2007, de Mohammad Ali Ohangar, et Le bus de nuit, 2007, de Kiumars Pour Ahmad. Ces nouveaux films donnent une nouvelle dimension au genre cinématographique de la défense sacrée. Parallèlement à ces drames, un sous-genre comique s'est également développé avec des œuvres telles que « Lady est avec moi » 1995 de Kamal Tabrizi, qui raconte l'évolution spirituelle d'un couar qui se retrouve au front contre son gré et qui change. Dans le même genre, on peut également citer la trilogie de Massoud Dehnamaki intitulée « Les disciplinaires », dont le premier opus a été réalisé en 2007. Le cinéma de la défense sacrée a produit de nombreux films durant ces 4 décennies. Il est impossible de tous les nommer. Citons quelques-uns des films les plus connus de ce genre. Kenny Manga, 1987, de Seyfolla date. Bashu, le petit étranger, 1990, de Bahram Beyzaï. L'épopée de Majnoun, 1992, de Jamal Shouje. Le Ma, 1995, d'Abdel Hossein Barzideh. Sheida, 1999, de Kamal Tabrizi. Voyage à Chazabé, 1995. Hiva, 1998, et Génération Brûlée, 1999. M. Kommer, 2006, de Molla Rolipour. Gilane, 2005, de Rachan Bani Etemad. Altitude Basse, 2002. Au nom du Père, 2006. Che, 2014, de Ratami Kia. Et Tranché 143, 2013, de Narges Abyar. Chacun de ces films regarde l'histoire de la guerre d'un point de vue différent. Mais ils ont tous en commun la volonté de préserver la mémoire des 8 ans de résistance et de sacrifice d'une nation engagée qui réussit à sauvegarder l'avenir de sa patrie.
Thank you.